Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous avons remarqué que dans Hébreux 11, verset 6, on va réafficher ce verset. Parce que c'est notre verset de référence, Hébreux 11, verset 6. Il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
Kandi kutizera ntibishoboka ko yihimbara kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera.
Donc nous avons remarqué un certain nombre de choses.
Hari ibintu byinshi twabonye.
Que sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Ata kwizera dushobora kumuhimbara.
C'est-à-dire que Dieu nous demande d'avoir la foi.
Imana idusaba kugira ukwizera.
Donc vous avez compris qu'il faut se débarrasser de toutes ces prières, Seigneur donne-moi la foi, etc.
Ko dukwiye kwiyambura aya masengesho avuga ngo Mana nyongera kwizera Mana mukwizera.
Ça ne sert à rien de prier comme ça, ça ne sert à rien de jeûner pour avoir la foi.
Ntacho bimaze gusenga uce cyangwa kwisondesha.
Ça n'apporte rien. Rien dans ta vie.
Par contre,
Dieu te demande d'avoir la foi.
Et
donc, il faut que tu comprennes les principes de la foi. Parce que si tu ne comprends pas les principes de la foi, tu ne verras pas Dieu intervenir sur la terre. Parce que Dieu est clair dans sa parole que nous ne pouvons pas lui plaire sans la foi. La foi va permettre au ciel de descendre sur la terre dans tes situations. Mais pour que cette puissance qui est à notre disposition puisse se manifester, c'est-à-dire être rendu visible par des œuvres, eh bien, il faut des canaux. Ces canaux, c'est nous-mêmes. C'est nous. C'est nous, les hommes. Dieu ne peut rien faire sur la terre. Et je sais que ça choque parfois des chrétiens, mais c'est la vérité. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans qu'il y ait quelqu'un qui croit. D'ailleurs, il n'a pas pu agir dans ta vie et te sauver tant que tu n'as pas été le canal récepteur du salut. Il ne pouvait pas te sauver souverainement en disant « Tiens, je vais sauver Arcade contre sa volonté, même sans sa foi. » Non, Arcade a dû entendre la parole de Dieu. Il a dû croire. Et il a dû être donc un canal de la puissance salvatrice de Dieu. Ça marche tout le temps comme ça. Nous sommes les canaux par lesquels la puissance de Dieu passe. C'est pour ça que Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et là, nous avons remarqué qu'il y a un premier type de foi qui est la foi, ce qu'on appelle des sens. Où Dieu est obligé de faire un certain nombre d'œuvres au travers de la foi des autres. Par exemple, des gens qui nous ont amenés au Seigneur et qui ont prié pour nous. Qui, par exemple, on était malade et ils ont prié pour nous et c'est leur foi. Leur foi qui a agi et qui a permis notre guérison. Et là, nous avons vu la puissance de Dieu en action. La personne a prié pour toi pour différentes choses.
Et tu as vu
la puissance de Dieu. C'est exactement ce qui se passe quand les évangélistes viennent et qui font des miracles, des prodiges, des guérisons. Et nous avons vu dans bien des textes que quand il y a la puissance de Dieu en action, les gens sont interpellés pour le salut. Et ils se remettent en question. Ils réalisent la puissance de Dieu. Ils ont souvent un peu peur. En se remettant en question. Et d'un seul coup, les convictions de péché viennent beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'un évangéliste aura beaucoup plus de résultats dans l'évangélisation de masse que n'importe qui d'autre. Parce que les gens ont besoin de voir. C'est-à-dire que là, l'expression que Dieu existe, c'est vraiment cet aspect qu'on sait que Dieu peut devenir personnel, qu'il peut agir personnellement dans notre vie. Alors, je vous ai montré que ce type de foi-là, Dieu s'en sert pour nous convaincre, souvent nous amener à lui au départ. Ou pour nous montrer qu'il nous aime, par exemple, quand on est au début de notre vie chrétienne. On est là, on est petit bébé spirituel. Et on a besoin, quelqu'un prie pour nous parce qu'on est malade. Et puis d'un seul coup, paf! On est guéri. Alors qu'on n'avait pas la foi pour la guérison nous-mêmes. Ou alors tu avais un problème à ton boulot qui était très sérieux, ou tu étais au chômage et tu démarrais avec le Seigneur. Quelqu'un a prié pour toi. Paf, tu vois la puissance de Dieu. Et là, tu dis, ah, gloire à Dieu, Dieu est grand. Et tout ça, on en a besoin au départ. On a besoin de voir cette foi d'essence. Qui produisent des manifestations. Qui nous provoque, à aller plus loin avec Dieu, qui nous montre quand on est découragé que vraiment Dieu est là. Mais ce n'est pas avec cette foi que tu vas pouvoir vivre longtemps. C'était la foi de Thomas. Vous vous rappelez, Thomas, il a dit, moi, je vous croirai. Vous dites que Jésus est ressuscité. Oui, oui, je vous crois. Mais j'ai besoin de voir ce Jésus. J'ai besoin qu'on voit les clous parce que moi, j'étais là devant la croix. J'étais devant la croix. Donc, j'ai bien vu que Jésus a été percé dans ses mains. Donc, si je vois les clous, il n'y a pas de problème. Si je vois son côté percé, alors là, je crois. Je dirais, c'est le bon Jésus. Et c'est vrai que Thomas a eu foi dans la résurrection de Jésus. Par la foi d'essence. Mais Jésus n'a pas loué ce type de foi, n'a pas dit « Ah, c'est super !» Il n'a pas trouvé ça du tout super. Mais on a besoin, nous les hommes, de temps en temps, que ça fonctionne comme ça. Mais ce type de foi ne vous amènera jamais très loin dans la vie chrétienne. Donc nous avons vu qu'il y a un autre type de foi qui est la foi biblique. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que Jésus est intervenu dans des vies, dans les évangiles, il cherchait quelque chose. Il cherchait la foi chez la personne. Et quand la personne avait la foi, la puissance de Dieu descendait. Quand les gens étaient réfractaires, c'est-à-dire qu'ils résistaient à la foi, comme par exemple quand il est venu là où il a grandi, et à Nazareth, donc, et bien la Bible nous dit clairement que parce qu'ils le connaissaient, ils l'avaient vu grandir, ils avaient du mal à croire. Et la Bible nous dit clairement que Jésus ne put, du verbe pouvoir, faire là que quelques petits miracles, quelques guérisons. Il a fait très peu de choses et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc c'est très clair, la foi amène la puissance de Dieu dans nos vies. L'incrédulité bloque la puissance de Dieu. Vous savez, j'entends souvent des gens qui racontent les histoires suivantes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, la plupart du temps, ils vont dire, ah, je ne sais pas, il doit y avoir des blocages. Et alors ce mot blocage, vous savez, souvent, il sous-entend beaucoup de choses chez certains chrétiens. Et c'est là où on a développé toutes ces doctrines qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas bibliques. On a commencé à dire, ah, tu dois avoir des liens ancestraux.
Il
doit y avoir un démon qui t'empêche d'avoir un boulot.
Il y a
quelque chose qui doit y avoir un blocage chez toi. Et alors tu vas là, on chasse plein de démons de toi, soi-disant des démons entre guillemets, des faux démons.
En fait, il y a pas...
On fait tout un tas de prières, de jeûnes et
d'histoires.
Et il n'y a plus des blocages maintenant. Il y a des super blocages. Parce que finalement, le problème, il n'est pas qu'il y a des blocages, entre guillemets, des trucs un peu bizarroïdes, mystérieux.
Tu as
juste besoin d'une chose. C'est d'apprendre à vivre dans la foi. Mais là, ça met la responsabilité sur nous. Et en général, on n'aime pas ça. On préfère, vous savez, le petit coup de prière qui va tout changer. Mais il
n'y
a pas de petit coup de prière qui va tout changer.
Il
y a toi qui fais face à des circonstances. Ça peut être le chômage, ça peut être des grandes dettes, ça peut être des conséquences des erreurs que tu as faites dans le passé.
Ça peut être,
tu dis, moi, je voudrais vraiment me marier.
Et
je ne trouve pas la bonne personne pour l'instant.
Ça
peut être toutes sortes de choses. Ça peut être vraiment, tu veux vraiment avancer avec le Seigneur dans tous les domaines. Et puis, tu sens que tu n'avances pas dans le Seigneur. Eh bien, il va falloir que tu apprennes à marcher dans la foi.
Ce
n'est pas plus compliqué que ça. Je vous dis, la vie avec Dieu, c'est très très simple. Le problème, c'est que si tu persévères à faire des choses, vraiment, je le vois, vraiment chez beaucoup de gens. Les gens qui ne sont pas enseignés, c'est typique.
Ils
sont là et ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Sur des choses qui sont fondamentales.
Vous
voyez ? Parce que, en fait, finalement, s'ils savaient comment marcher dans la foi,
ils
verraient beaucoup plus de choses se produire. La foi débloque la puissance de Dieu. Jésus dira à un moment dans les évangiles, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un grain de moutarde. Un grain de moutarde, c'est tout petit. Il m'a devancé. Tout petit.
Gâteau.
Et Jésus dit, si vous aviez simplement un petit peu de foi,
il
dira, rien ne vous serait impossible. Donc ça prouve bien que la responsabilité demeure sur nous. Dieu a fait des alliances. Et Dieu fonctionne avec des promesses. Maintenant, ces promesses se réaliseront ou ne se réaliseront pas dans ta vie selon ton attitude de foi. Donc, ce n'est pas compliqué. Le tout, c'est que tu comprennes et que tu marches dans les principes du royaume. Et c'est là où tu verras les choses s'accomplir. C'est comme ça que ça marche. Si tu persévères à vouloir faire des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu, alors que tu es persuadé que c'est comme ça que tu dois faire, tu tourneras en rond. Et tu vas faire partie du grand, grand groupe des chrétiens qui finalement sont du groupe des vaincus. Qui veut faire partie du groupe des vaincus ici? Personne. Personne n'aime perdre. Vous savez, si vous voulez voir la chair en manifestation chez des gens, même chez des chrétiens, c'est marrant. Vous faites des jeux, vous savez, vous mettez des gens ensemble pour faire des jeux. Des jeux d'adultes, par exemple. Ça peut être des jeux de cartes, ça peut être des jeux, je ne sais pas moi, les dames, les échecs, ou des jeux à plusieurs. Et vous allez voir une chose. La chair sortir. Parce qu'en général, celui qui perd, il n'aime pas perdre. Vous avez remarqué ça. Et même des fois, des gens qui sont tout calmes, quand ils perdent un jeu, ils sont tout fâchés, vous ne les reconnaissez plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas perdre. Personne n'aime perdre. Bon, un jeu, tu vas dire, c'est pas grave.
Mais
il y a des choses qui sont beaucoup plus graves quand
tu perds.
Quand tu fais partie des perdants, parfois, c'est beaucoup plus grave.
Donc, il va
falloir que tu apprennes à te mettre du côté des vainqueurs. Et pour te mettre du côté des vainqueurs, il faut que tu exerces la foi. Parce que la foi t'amènera toujours dans la victoire. La foi t'amènera toujours à triompher. La foi changera tes circonstances. La foi transformera tes situations. La foi guérira tes maladies. La foi changera complètement ta situation financière. Ta situation relationnelle. L'environnement dans lequel tu vis. La foi t'amènera là où rien d'autre ne pourra t'amener. Et quand vous étudiez la Bible, vous verrez que la foi, c'est un élément, je dirais, c'est une doctrine centrale dans la Bible. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous pouvons voir nos situations changer par la foi. Nous pouvons voir toutes choses par la foi. Jésus a marché par la foi. Dieu a fondé le monde, nous l'avons vu par la foi. Nous avons vu que la foi peut renverser les montagnes. La foi peut faire face aux plus grands défis. Des plus grandes visions. Et nous avons vu dans Marc 11, 23 et 24 que nous devons exercer notre foi sur deux dimensions. Nous avions fait une leçon sur chaque dimension. La première dimension, nous l'avons vu, c'est la dimension horizontale, c'est-à-dire par rapport à tes circonstances. Et ça, c'est important. Parce que tu as des circonstances et il va falloir que tu parles. Est-ce qu'on peut mettre Marc 11, 23, je vois. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc nous avons vu les montagnes, c'est quoi? C'est tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais pas seulement, parce que là aussi, je vous ai mis en garde sur quelque chose. Il y a trop de chrétiens qui vivent, entre guillemets, avec les fardeaux constants jusqu'à la fin de leur jour. Ils sont tout le temps en train de vous dire qu'ils sont dans les combats, qu'ils sont en train de se battre contre le diable, contre les démons, contre les difficultés de la vie et contre les trucs et les machins. Et puis finalement, 10 ans plus tard, ils ont toujours le même discours. Ils
ne
sont jamais joyeux. Ils sont jamais joyeux. Jamais dans la victoire. Toujours essoufflés. Toujours essoufflés. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que ces chrétiens-là vieillissent très vite. Dis à ton voisin, est-ce que tu as envie de vieillir très vite? Si tu veux vieillir très vite, sois comme ça. Plein de problèmes, plein de fardeaux, plein d'histoires. Je te garantis, tu vas vieillir très vite. Moi, je connais des gens, ils ont pris 20 ans en quelques années, entre guillemets. Non. Il faut falloir que tu apprennes certaines choses. Il y a un temps où tu te bagarres contre tes circonstances et tu transformes tes circonstances. Et ça, c'est le début de ta vie par la foi. Tu as été sauvé avec tout un arrière-plan. Un certain nombre de difficultés, de problèmes, tout un truc. Peut-être même des engagements que tu as pris qui étaient très mauvais. Tu te retrouves sauvé. Donc, tu as l'assurance éternelle. Mais il y a des choses derrière toi. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être des dettes par-dessus la tête. Ça peut être des problèmes que tu as eu relationnels avec tout le monde. Avec toutes sortes de trucs avec lesquels tu t'es retrouvé. Ok, tu es trouvé tel que tu es trouvé. Ça, c'est tes circonstances et tu vas transformer tes circonstances. Maintenant, la deuxième partie sur laquelle tu dois t'attaquer, c'est avoir une grande vision de réaliser de grandes choses pour le Seigneur. Parce que tu dois sortir de tes problèmes et après tu dois construire le royaume de Dieu. Travailler pour celui qui t'a sauvé.
ugakorera umwe yagukiza
amener une transformation dans ta génération
ukazana uguhinduka mu runganwe rwawe.
Donc tu auras face à faire face à des défis.
Nukuvuga hari ni gukwiye guhangana navyo kandi.
Dieu t'a parlé par rapport à certaines choses.
Imana kumbe yaravuganye nawe ku bintu bitandukanye.
Est-ce que le Seigneur veut?
Yamichimana igomba.
C'est que tu accomplis ce qu'il t'a promis.
Nuko ushitsa ivyo yagusezeraniye.
Et pour accomplir ce qu'il t'a promis,
kugira ngo ubishitse ivyo yagusezeraniye.
Tu vas avoir besoin d'un ingrédient,
Hari kindi rero ubukeneye.
Il s'appelle la foi.
Cyitwa kwizera.
Tu vas en avoir besoin. Là, ça ne sera plus par rapport à des problèmes que tu as personnellement. Ça sera par rapport à des choses que Dieu t'a dites, des promesses personnelles. Et que tu veux voir se réaliser. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il
ne le dit pas
en son cœur, et qu'il croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Donc là, nous savons qu'il va falloir croire, proclamer la parole de Dieu jusqu'à temps de voir s'accomplir. Et là, il faut que tu parles tes promesses. Que tu parles les résultats. Ensuite, verset 24, c'est la foi verticale. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez
s'accomplir.
Donc tu te mets devant ton Père Céleste en étant dans la foi. Tu lui demandes des choses selon sa parole ou selon ce qu'il t'a dit personnellement. Et tu reçois au moment où tu pries. Tu pars de la prière, entre guillemets, tu sors de la prière avec ta réponse. Les gens qui demandent 50 fois les mêmes choses au Seigneur, ça veut dire qu'ils ne sortent jamais de la prière avec leur réponse. Tu n'es qu'un perroquet spirituel. Tu es en train de répéter 50 fois, « Seigneur, guéris-moi. »« Seigneur, guéris-moi. » Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu vois que je souffre, guéris-moi. Mais Seigneur, guéris-moi. Je ne dois pas assez pleurer. Seigneur, guéris-moi. Tu fais ni plus ni moins que de perroqueter. Ce n'est pas un verbe français, mais
vous
tu répètes 50 fois la même chose comme un perroquet. Et Jésus dira que ne faites pas comme les païens qui, à force de répétition, croient que Dieu va les exaucer. Dieu te demande de grandir dans la maturité dans la relation avec lui. Ça prend du temps, frères et sœurs. Ça prend du temps. Alors ce soir, on va voir dans Matthieu 14 un passage qui va vous aider à comprendre la persévérance dans la foi. Parce que vous avez besoin d'apprendre à persévérer dans la foi. C'est très important ce que je vais vous enseigner ce soir. Il y a plein de choses passionnantes sur la foi. Et je vous dis, ce ne sont pas des choses dans lesquelles vous allez maturer en deux jours. Je
vous
rappelle, c'est une école. Ça prend un peu de temps.
Mais
croyez-moi, quand vous êtes à la bonne école, vous avez remarqué, c'est très simple, c'est comme ici. Ici, il y a les écoles les plus super pourries. Vraiment, où il y a des trucs, on se dit, mais comment ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils apprennent dans ces écoles? Et aussi, il y a quelques très bonnes écoles. Et si on est dans les très bonnes écoles, normalement, on a une bien meilleure éducation, vous êtes d'accord? Si
tu n'as
pas eu la chance d'être dans une bonne école, bah, il y a des choses que tu as mal apprises. C'est la même chose avec le Seigneur. Il y a des fois, on était à mauvaise école. Où on était à notre propre école. On a fait l'école à la maison, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a essayé de faire de l'auto-apprentissage sans être guidé correctement. Mais par contre, quand on est à bonne école, bien, on va petit à petit grandir. Tu vas grandir, tu vas passer les examens divins. Et tu vas grandir de plus en plus dans la foi.
Moi,
personnellement, quand j'ai commencé dans la foi, c'était la catastrophe totale. J'ai pas encore une très grande foi, mais quand j'ai compris certains principes, je vous garantis, quand il y a quelque chose qui rentre en moi, ça ne sort plus jamais. Je ne suis pas très rapide à comprendre, mais quand je comprends, il n'y a plus personne qui peut me convaincre. J'ai fait beaucoup de progrès dans la foi. Je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais j'ai découvert qu'avec la foi, il y a des choses que je peux vivre que je ne vivrai jamais autrement. Donc c'est une école, frères et sœurs. On en apprend les principes. On les met en pratique. On répète ces principes. C'est pour ça que souvent, vous savez, quand les gens disent « Ah, ça, je l'ai déjà entendu. » Mon frère, ma sœur, t'as peut-être entendu une fois. Mais
il
vaut mieux que tu ne l'entendes 50 000 fois, s'il le faut. Jusqu'à temps que ça fasse partie de toi-même. Parce que quand la parole de Dieu est en toi, vous savez que vous pouvez dire « J'ai compris » avec la tête. Ou dire vraiment « J'ai compris ». Au plus profond de moi-même. Et quand tu dis j'ai compris et que c'est vraiment au plus profond de toi-même, il
n'y
a rien qui te sera impossible dans ce domaine-là. Mais pour que ça passe de ta tête, c'est-à-dire que tu entends un enseignement une fois en disant « Ah oui, j'ai compris !» jusqu'au moment où tu vas réellement le vivre, être dans la dimension de cet enseignement. Parfois, ça demande des années.
Ce n'est
pas très spectaculaire au départ. Mais quand les gens voient le travail de ta foi au bout d'un moment, là, ils sont complètement bouleversés. Parce que vous savez, marcher dans la foi, ce n'est pas très spectaculaire au départ. Au contraire, c'est même difficile. Mais quand tu persévères réellement et que les gens commencent à voir le fruit, au bout de quelques années, ils disent « Waouh !» Je ne peux pas vous dire le nombre de gens qui viennent dans ce ministère et qui posent des questions. Comment on a réussi à en arriver là? Et pourtant, on n'est pas très haut par rapport à ce que le Seigneur nous a montré. Franchement, on n'est pas très haut. Dieu m'a montré des choses bien, bien, bien plus grandes que ça. Mais c'est une étape. Mais le travail de la foi, ça va être un travail journalier dans ta vie. Il y a une très très belle histoire dans Matthieu 14. Et ça, il faut vous habituer à ce genre de choses. Je vais juste lire en français, parce que ça serait trop long de lire en français en Kirundi. Il est dit verset 22, « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades, c'est-à-dire quelques kilomètres, de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. » Alors, ici, on voit déjà dans ces trois premiers versets des principes importants. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que Jésus va amener ses disciples en leur disant, voilà, vous montez dans la barque et vous allez dans cette direction-là. Il y a souvent une idée préconçue qu'il faut rapidement casser dans le domaine de la foi. C'est l'idée que parce que Dieu nous a dit, tout sera facile. Si c'est Dieu qui a dit ça, c'est cool, il n'y a pas grand chose à faire, ça va se produire tout seul. Il
n'y
aura pas d'obstacle. Tout sera facile. Non, pas tout à fait. Au contraire, c'est là où tu auras le plus d'ennuis. Si tu veux obéir à Dieu, tu auras certainement beaucoup d'ennuis. Quand tu veux obéir au Seigneur et que tu crois des promesses de Dieu, tu auras beaucoup d'opposition. Je ne parle pas de l'opposition ou des problèmes que tu as toi-même générés, vous savez. Parce que beaucoup de chrétiens disent, j'ai des oppositions ou j'ai ceci, le diable essaye de cela, etc., etc.
Alors Christo benshi baravuga ngo hari ibintu bingwanya ngo Satan agerageza kugira ibi n'ibi n'ibi.
Mais la plupart du temps, je me suis aperçu que c'était pas des oppositions et des attaques entre
guillemets.
La plupart du temps quand les gens disent ça, pas toujours mais la plupart du temps. C'est parce que ce sont eux-mêmes qui se sont mis dans des problèmes.
Ce
n'était pas des attaques, c'était eux-mêmes qui ont ouvert leur chair dans un domaine ou un autre et se sont retrouvés avec des problèmes. Une autre chose que j'ai vue souvent quand des gens parlent
d'attaque,
c'est que souvent les gens se sont bourrés d'illusions et en fait ils s'imaginent un monde spirituel qui est faux. J'en ai vu beaucoup aussi des comme ça. Donc en fait, ils sont en train de se bagarrer contre des trucs imaginaires qu'ils ont eux-mêmes inventés. En fait, ils ont créé leur propre film. Non, si tu as de vraies attaques spirituelles, parce que tu crois une promesse de Dieu, que tu persévères dans les promesses de Dieu, obligatoirement, au bout d'un moment, ta foi va amener à une transformation dans ces situations. Et vraiment, tu vas voir la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. J'ai vu beaucoup de gens dire « Oh, j'ai des attaques à mon travail. » Réfléchis bien si c'est des attaques ou si c'est toi qui ne fous rien au boulot.
Ou
qui arrive en retard une demi-heure tous les jours. Si tu arrives une demi-heure en retard tous les jours et que ton patron veut te virer, ce n'est pas une attaque. Soyons bien clairs. Il y a des vraies attaques spirituelles quand vraiment tu commences à marcher dans la foi. Ça, on est d'accord. Vous vous rappelez cette histoire où Jésus va chasser le démon, là, celui qui est de Gadara. Gadara. Juste avant qu'il arrive, ils étaient justement sur le lac. Et d'un seul coup, il y a une tempête qui s'est levée. Et quand vous étudiez bien ce texte, vous apercevez que Jésus, à ce moment-là, a vécu une attaque. Jésus a vécu une attaque. Une tempête qui n'aurait jamais dû se lever s'est levée.
On veut détruire
Jésus à plusieurs fois on a attenté à sa vie. Ça c'est des attaques d'origine satanique, certaines fois au travers des hommes, certaines fois c'était au travers des hommes et des fois c'était des choses faussement naturelles, en fait des choses surnaturelles qui agissaient dans le naturel. Avant de délivrer cet homme, d'un seul coup Jésus était sur le lac et il s'est passé une grande tempête. C'était vraiment une attaque satanique quand on étudie bien le texte. Ici Jésus met ses disciples, donc il envoie ses disciples et les disciples sont vraiment dans la volonté de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit allez dans la barque et passez à l'autre rive. Donc on est bien d'accord qu'ils étaient bien au centre du centre de la volonté de Dieu. C'était Dieu lui-même, Dieu le Fils qui les avait amenés dans cette barque. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une tempête qui va se passer. Quand tu obéis au Seigneur, que tu es vraiment dans la foi, que tu veux voir des promesses de Dieu s'accomplir, tu feras face à des tempêtes, des circonstances qui seront adverses. Tu dois t'y attendre, mais tu ne dois pas les craindre. Et tu ne dois pas être toujours sur la défensive en disant « Le diable est en train de préparer un sale coup. » En quelque sorte, tu commences à avoir peur du diable. Non, il faut que tu apprennes à ne pas avoir peur du diable. Parce que le diable, il est sous tes chaussures. Maintenant, il faut que tu apprennes à le laisser sous tes chaussures. Et tu fais ça par la foi. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien qu'il soit en vous. Donc, il se retrouve dans une tempête. Et verset 25, il est dit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ici, il y a toute une leçon sur la foi et sur la persévérance de la foi. Je vais vous montrer quelque chose qui est super important. Donc Arcade, tu vas te mettre là-bas et tu vas jouer le rôle de Jésus.
Très bien.
Ah, il est content là. Il pensait qu'il jouerait le rôle de Pierre et qu'il allait blouf, tomber dans l'eau. Donc, je vais jouer le rôle de Pierre. On voit les disciples qui sont là dans la barque et ils voient quelqu'un de loin qui marche sur l'eau. Et ils ont été, waouh, super choqués. Ils se demandaient qui c'était. Un fantôme. Vous savez, il y a une chose que vous devez savoir reconnaître. Vous devez apprendre à reconnaître Jésus dans vos circonstances. C'est très important de savoir là où est le Seigneur dans vos circonstances. Souvent, quand il y a la tempête, les gens disent, Seigneur, où es-tu ? Seigneur, tu vois pas, nous périssons. Seigneur, tu vois, je souffre, ça ne va pas. Oh, pauvre de moi, Seigneur. Oui, souvent, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on dit. Il faut que tu apprennes au milieu de tes tempêtes à reconnaître où est Christ. Parce que sache une chose, il n'est jamais loin pour agir. Mais il faut que tu apprennes à le reconnaître et que tu arrêtes de regarder tes circonstances. Parce que trop de gens ont les yeux sur les circonstances. Et alors que Jésus voudrait commencer à venir vers eux, ils reconnaissent tout sauf le Seigneur. Et ça, c'est une erreur que nous faisons très souvent. Au milieu des pires tempêtes que tu peux vivre, sache une chose, le Seigneur n'est pas loin. Il y a toujours un chemin par lequel il veut te faire passer pour que tu puisses le rencontrer face à face et qu'il agisse dans tes circonstances. Et ça, c'est ce que la foi voit. Celui qui n'a pas la foi marche au milieu de ses circonstances et subit ses circonstances. Celui qui ne marche pas dans la foi, il ne voit qu'une chose, c'est ses circonstances. Il voit sa maladie, il voit son manque, il voit son chômage, il voit tout le reste. Il voit en fait le problème et seulement le problème. Celui qui marche dans la foi, il voit la solution, c'est-à-dire Christ. Et ça, c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Maintenant, regardez ce que Pierre va faire. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Vous savez, jamais Jésus a dit à ses disciples, les gars, vous savez, je vais vous avouer. Moi aussi, j'ai peur. Est-ce que vous voyez une seule fois ça dans les évangiles? Jésus n'a jamais dit une seule fois, les gars, j'ai peur. J'ai peur que, vous savez, vous les douze, je vous ai sortis par la foi de vos familles, entre guillemets, pour aller me servir. Vous aviez des boulots, maintenant vous êtes tous au chômage, mais vous êtes avec moi. Mais vous savez, demain, je ne sais pas comment je vais vous nourrir. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Puis vous savez, je ne sais pas vraiment comment vous allez terminer, vous les douze.
Est-ce
que Jésus une fois a été comme ça? Non. Jamais Jésus n'a été du côté des perdants. Il savait ce qu'il faisait. Il savait comment il allait agir. Même une fois, il y avait une grande foule dans un désert. Jésus a provoqué un de ses disciples. Ils étaient là, ils disaient, ah Seigneur, tu vois, ils ont tous faim. Jésus leur dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus leur a posé la question. Mais lui, il savait ce qu'il allait faire. Vous savez, quand vous êtes dans la foi, vous savez ce que vous allez faire. Vous savez, vous allez là. Là, vous allez là. Et il n'y a rien d'autre qui vous empêchera d'aller là. Parce que la foi vous amène là où vous voulez aller. La foi, ce n'est pas quelque chose qui hésite.
Ce
n'est pas quelque chose où vous êtes en train de vous dire, bon, si ça marche, c'est le plan A. Ou alors c'est le plan B. C'est le plan B sinon. Et si jamais le plan B ne marche pas, ni même le plan A, j'ai un plan C. Ne faites jamais ça pour les fiançailles. Plan A, plan B ou plan C ou plan D. Et puis, vous mettez à côté, vous savez, le plan A, vous mettez le nom de la fille, Adèle. Plan B, Bernadette. Plan C, Karine. Non, ça ne marche pas comme ça, la
foi.
Ce n'est pas le plan principal, le plan numéro un, et puis le reste, après, si ça ne marche pas, voilà ce que j'ai prévu. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est que tu détermines d'après les promesses de Dieu, soit de sa parole ou soit que tu as personnellement. Une direction que tu vas adopter. Et rien ne te fera bouger de cette direction. Parce que tu marches par conviction. Une conviction, c'est quelque chose qui est spirituel en toi. C'est quelque chose qui doit être indestructible en toi. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas par conviction, qui marchent plutôt en regardant le gré des circonstances. Vous savez, à propos des fiançailles, une fois, j'ai reçu un mail comme ça il y a quelque temps. Vous savez, il y a vraiment des gens qui sont un peu troublés, je trouve. Des gens qui ne sont pas du tout stables dans leur personnalité. C'était une jeune fille qui fréquentait un garçon. Garçon sauvé, elle sauvée. Apparemment, ils avaient beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Et d'un seul coup, il y a une connaissance qu'elle avait perdue de vue depuis longtemps qui refait surface. Et ce garçon qu'elle connaissait alors qu'il n'était pas converti, d'un seul coup s'est converti. Et elle me dit, pasteur, je ne sais plus où j'en suis. Il y en a deux maintenant. J'ai répondu, j'ai dit, ma sœur, tu as un problème. Non, mais marchons avec conviction, frères et sœurs. Soyons clairs. Tu prends une direction, tu prends une direction. Il
ne
faut pas prendre une direction et au bout d'un moment te dire que, ah, il y a un carrefour.
J'y
avais pas pensé au carrefour. Maintenant, il y a une voie. J'ai eu du mal à me mettre sur la première voie. Et maintenant, il y a un carrefour. Si tu fais ça, mais tu n'iras pas loin. Ça,
ce
n'est pas marcher dans les convictions. Et on va voir que c'est exactement ce que Pierre va faire. Revenons à notre histoire de Pierre. Pierre, toujours aussi hardi, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Vous savez, faites attention si vous provoquez Jésus au niveau de la foi. Parce que le Seigneur te dira des choses si tu dis, « Seigneur, je te promets, si tu me dis de faire ça, je le ferai. » Et le Seigneur te dit, « Ok, fais-le. » Je te demande de le faire. Et là, tu vas sortir de la barque. N'oublie pas que tu vas sortir de l'arche et tu devras marcher sur l'eau. Ah, attends, Seigneur, c'était pas tout à fait ça que j'avais dit. Méfiez-vous de ce que vous dites au Seigneur. Vous savez, le Seigneur vous prendra au mot souvent. Faites gaffe à vos prières. Parce que le Seigneur répond à la prière. Ah, ça fait des années que tu pries pour ça? Oui, ok, voilà. Ah, tu veux te marier? Voilà le jeune homme. Voilà la jeune fille. Ah, oh, Seigneur, après 3 ans de mariage, c'est dur quand même, mais j'étais sûr que c'était ça, Seigneur. Le Seigneur te dira, c'est pas toi qui l'as demandé? T'as pas témoigné que c'était moi qui l'avais amené? Je me souviens plus très bien. Vous voyez, dans ces cas-là, la mémoire est très courte. T'as prié? T'as eu un boulot? Et puis, au bout de 2 mois, t'en as marre de ton boulot. Alors que vraiment, c'était le Seigneur qui t'a vraiment donné ce boulot et qui t'a sorti d'affaire. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Parce que souvent, vous voyez, on a des mauvaises attitudes. Donc, Jésus lui dit, viens. Et là, qu'est-ce qui devait se passer? Quand Jésus lui dit « Viens », quelle était la parole que ça signifiait? Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que, Pierre allait sortir de la barque, qu'il allait marcher dans le surnaturel comme son maître. Il allait marcher dans le surnaturel comme son maître. Il allait faire une distance. L'objectif était de quoi faire? De partir d'un point A, on fait un peu de mathématiques, et d'arriver à un point B, le point d'arrivée. Donc c'était de parcourir une certaine distance dans la foi. C'est-à-dire, quand Jésus lui a dit « Viens, sors », c'est-à-dire « Viens me rejoindre ». C'était l'objectif de Jésus, que Pierre vienne rejoindre le Seigneur. Donc Pierre sort de la barque. Et surprise devant tous les disciples, enfin derrière, les disciples qui étaient derrière, c'est que Pierre marche sur l'eau. Et j'imagine que quand il a commencé à marcher un peu sur l'eau, Jacques et Jean, ils devaient dire, on s'est fait rouler, on aurait dû y aller tout de suite. Là, il est en train de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et Thomas, il disait, il va tomber, faites attention, ne vous penchez pas trop au bord de la barque. Si vous vous penchez trop près de la barque, vous allez tomber, vous. Il devait y avoir des commentaires. Parce que je vais vous dire une chose, quand vous marchez dans la foi, vous aurez des commentaires. Vous aurez des observateurs, et je vous rappelle qu'ils ne seront pas des Nations Unies, ceux-là, non plus. Vous aurez des observateurs qui ne seront pas des Nations Unies. Il y a toujours des gens qui vont vous regarder quand vous marchez. C'est pour ça que vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. Avant que tu déclares, tu sais, moi, je marche par la foi. Vous savez, comme les jeunes de l'OCAF. Quand ils vont se voir 2 minutes à la maison, et ils font 10 maisons le soir, et ils disent, je suis sorti, j'ai une grande balade ce soir. Et en fait, Dieu te demande de marcher dans le surnaturel. Mais il va falloir que tu atteignes des objectifs. Il faut que tu atteignes des objectifs. Il va falloir que tu atteignes l'objectif divin. C'est-à-dire que ta foi t'amène au résultat. Très important. Ça s'appelle la persévérance dans la foi. Hébreux 6:12 nous dit la chose suivante. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, quoi, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses.
Kugira ngo ntimube ibinebwe ariko mwigane abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ibyasezeranywe.
Il est bien dit par la foi et la persévérance.
Havuga neza ngo muheshwa n'ukwizera n'ukwihangana.
La foi et la persévérance.
Ukwizera n'ukwihangana.
Vous feront hériter les promesses, c'est-à-dire amènera les promesses
kugira ngo muheshwe amasezerano
à la réalisation, à les voir devant
vous.
Rappelez-vous qu'une promesse, c'est intangible, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est matériel, qui est pas c'est pas réalisé, une
promesse.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les promesses, c'est l'espérance. C'est une promesse, c'est toujours futur, je vous le rappelle. Ce qui amène la réalisation, la matérialisation, la manifestation de ta promesse, c'est ta foi. C'est ta foi. Et ta foi doit arriver à maturité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail dans ta foi. C'est très important à comprendre. Ta foi va œuvrer sur un temps, un laps de temps. Qui peut être plus ou moins court, ça dépend. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham, il a vécu quelque chose, des promesses, la réalisation de certaines promesses, parce que simplement il a obéi.
Et Abraham, yashyize ku masezerano kubera gusa yumviye.
Ça, c'est un aspect de la foi. Vous vous rappelez, Dieu lui a dit, sors de ta patrie, de ta famille. Dans l'endroit où je te montrerai. Quand il sort, Dieu lui a fait des promesses de rendre son nom grand, de multiplier sa postérité, qu'il y aurait des nations, des rois qui sortiraient de lui. Une partie de ses promesses se sont réalisées grâce à son obéissance. C'est la prospérité financière. Ça a été direct de par son obéissance. Par contre, nous avons vu que le fait d'avoir une postérité, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a dû persévérer.
Voilà.
Il y a cet aspect de la foi où tu vas persévérer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pierre, lui, il est sorti de la barque. Il a marché dans le surnaturel. Et la parole de Dieu, marcher sur la parole de Dieu, vous amènera dans le surnaturel. Mais il va falloir que vous restiez dans le surnaturel jusqu'à temps de voir la réalisation, de voir avec vos yeux en manifestation totale ce que Dieu vous a promis. Ceci va vous demander de la persévérance. C'est pour ça que la Bible nous dit que par la foi et par la persévérance, nous héritons des promesses. La persévérance, c'est quoi ? La persévérance, c'est faire quelque chose d'une manière consistante, c'est-à-dire régulière dans le temps, quelles que soient les circonstances. Donc, tu continues à faire la même chose, quelles que soient les circonstances. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, que tout le monde te dise ça ne marchera jamais. Et il y a beaucoup de gens qui te diront ça ne marchera jamais. Quand tu marches dans la foi, il y a beaucoup de gens qui te diront ça ne marchera jamais. Et je vais vous dire une chose. Très souvent, les gens qui vous diront ça ne marchera jamais, c'est les gens qui sont proches de vous. Parce que très souvent, ils ont peur de votre foi. Souvent, c'est le cas. Les gens qui sont proches de vous qui vous diront tu crois que ça va marcher? Et tu es là, tu crois. Donc il va falloir que tu apprennes. Et c'est une très bonne leçon. Ne dis jamais que, ou te fâche jamais contre quelqu'un qui ne croit pas ce que tu crois. Le jour où tu verras exactement le résultat de ta foi, il te dira toujours, nous étions ensemble dès le premier jour. Toujours. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à ne pas dépendre des gens et des circonstances. Apprends à dépendre de la parole de Dieu. Il y a des gens parfois qui ne comprennent pas comment tu marches dans la foi. Ils
ne
comprennent pas. C'est normal. T'en inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ça. C'est sûr que c'est bien d'avoir des gens qui t'encouragent dans la foi. C'est bien que tu aies des gens qui t'encouragent dans la foi. Des fois, tu en trouveras qui vont t'encourager.
Et
il y en a d'autres qui ne t'encourageront pas du tout. Et des chrétiens nés de nouveau et même remplis du
Saint-Esprit.
Donc, ne t'inquiète pas de ça. C'est une très bonne leçon que tu vas apprendre dans la foi. Et quand tu auras eu beaucoup de succès dans la foi, les gens automatiquement t'encourageront parce qu'ils diront « Ah ben je sais, la dernière fois, vraiment,
ah,
t'es quelqu'un qui a la foi, toi. Tu as appris à marcher dans la foi. Dis-moi, j'aimerais bien marcher dans la foi comme toi. » Et pourtant, vous avez commencé ensemble.
Non,
apprends à marcher dans la foi.
Vois
ce que les autres ne voient pas.
Parce
que la foi voit les choses surnaturelles.
La
foi voit le résultat. Dans Hébreux chapitre 12, il y a un petit passage qui est très intéressant. Hébreux 12. La Bible nous exhorte à quelque chose. Il est dit au verset 1 et 2, « Ainsi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. » Vous voyez encore ici, persévérance. L'épreuve qui nous est proposée, c'est-à-dire l'examen, la course qui nous est proposée. Les yeux, quoi ? Fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, de notre foi, et qui l'amène à la perfection. Donc ici, il est dit, ayant les yeux fixés sur qui ? Ayant les yeux fixés sur Jésus. Si tu veux marcher dans la foi, il va falloir que tu aies les yeux fixés sur Jésus. Reprenons l'histoire de tout à l'heure. Lorsque Jésus dit à Pierre, viens. Pierre, il avait les yeux sur qui ? Sur Jésus. À ce moment-là, il avait la tête et le cœur sur Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que s'il avait eu la tête en se posant la question, est-ce que si je mets mon pied sur l'eau, je vais couler ? Il ne serait jamais sorti. Il y a des moments dans la foi, Dieu te dit quelque chose, où tu lis cette parole, et d'un seul coup, cette parole descend dans ton cœur. Là, il faut que tu fasses une chose. Il faut que tu aies de la hardiesse. Monsieur prudent, ou monsieur trop prudent n'est jamais dans la foi. Si tu attends d'avoir l'assurance, la surassurance et la réassurance, tu ne pourras pas marcher dans la foi. En tout cas, je parle des choses dans le naturel. Est-ce que cette eau va pouvoir me supporter ? D'après les principes physiques de la poussée d'Archimède, non, je vais m'enfoncer. Pierre n'a pas réfléchi. Pierre, rappelez-vous, était un pêcheur de poissons. Il savait très bien que marcher sur l'eau, ça ne collait pas avec sa tête. Mais pourtant, il avait les yeux sur Jésus.
Mugako yarahanze amaso kuri Yesu.
Quand tu as les yeux sur Jésus, tu marches dans le surnaturel.
Iyo uhanze amaso kuri Yesu ashobora
kugendera. Et j'aime trop cette expression française surnaturel parce que surnaturel ça veut dire au-dessus.
Le kuvuga ibidasanzwe nibiri hejuru.
Ça veut dire que tu domines.
Le kuvuga ko urarengeye urasumba.
Ta foi domine le naturel.
Kwizera kwawe kurarengeye.
C'est pour ça que ça t'amène dans le surnaturel. C'est ça qui est important à comprendre. Si tu veux voir Dieu agit dans le surnaturel. C'est pour ça que je vous dis, que je vous le redis, rien ne se passe par hasard avec Dieu. Si
tu
as eu des bonnes circonstances, dis Seigneur, merci, c'était des bonnes circonstances. Mais ne va pas dire, j'ai prié. J'avais la foi. Mais vous voyez ce qui s'est passé grâce à moi et à Dieu.
Non,
ne fais jamais ça. Apprends à marcher dans la foi. C'est-à-dire que tu as les yeux sur le Seigneur. Et tu commences à marcher vers la destinée. C'est-à-dire que ta foi vienne à maturité. Quand la Bible nous parle dans Hébreux 12, le passage que nous avons lu tout à l'heure, que c'est lui qui mène notre foi à la perfection. Ce mot perfection veut dire à la maturité, à l'état accompli, réalisé. À quelque chose qui s'est produit totalement. Si tu es malade et que tu veux guérir, tu ne veux pas que la moitié de tes symptômes partent et l'autre moitié reste. Ça veut dire que sinon, à ce moment-là, tu es à moitié guéri. Ça va mieux, mais tu n'es pas complètement guéri. Ce que tu veux, c'est être entièrement guéri. Si pour l'instant, tous les mois, tu as un déficit, moi je ne sais pas, de $500 par mois, eh bien, si au bout d'un moment, tu vois que tu n'as plus qu'un déficit de $250, ton objectif n'est pas atteint, tu n'es pas encore pourvu, tu es encore déficitaire.
Tu as
fait la moitié du chemin.
Et
avec Dieu, ce n'est pas du presque, c'est du complètement arrivé, total. Dieu n'est pas le Dieu de la moitié ou du quart. C'est tu vois le résultat total. Et quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il a fait une certaine distance. C'est l'image de la distance de notre foi. Il a continué à croire. Mais la Bible nous dit au bout d'un moment, on va remettre Matthieu 14. Au bout d'un moment, il va se passer quelque chose qui va lui poser beaucoup de problèmes. Il est dit au verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Une chose qui peut vous arriver et qui est terrible, c'est de commencer dans la foi et terminer en ayant eu un bain bien froid. Parce que ça, les inconvertis vont être au balcon en train de vous regarder et rire du spectacle. Ah, il nous avait dit que son Dieu était grand. Que tout était fait déjà.
Et
tu es là et tu dis, bah, en fait, le Seigneur m'a dit autre chose. Oui, mais là, en fait, Dieu... En fait, je pense que Dieu a dû changer certaines choses dans son plan. En fait, tu ne vois pas l'objectif réalisé. Et il faut faire très extrêmement attention. Tu dois apprendre à marcher dans la foi, mais tu dois apprendre à marcher dans la persévérance de la foi. Mais tu vas me dire, comment je peux persévérer dans la foi? Continue à obéir à la parole. À parler la parole. À déclarer le résultat et non pas à déclarer les circonstances. Pierre a fait une immense erreur ici. Que l'on fait très souvent. On est là, on commence à marcher dans la foi quand on commence à connaître les principes de la foi. Par exemple, tu commences à déclarer ta guérison. Et au bout d'un moment, les symptômes essayent de revenir très fortement. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que tu vas commencer à dire, apparemment, je suis malade à nouveau? Ou est-ce que tu vas continuer à dire, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri? Je me tiens sur la parole de Dieu. Je refuse de croire le contraire. Je déclare que ces circonstances sont du mensonge et je déclare la parole de Dieu comme la vérité. La vraie foi se testera au milieu des mauvaises circonstances. Ce que Pierre a fait ici, c'est qu'il a commencé à considérer ces circonstances. Est-ce que la Bible nous dit, d'un seul coup, le vent s'est mis à venir et à souffler très fort? Non. Le vent, certainement, ils étaient dans la tempête, ils étaient là, ça bougeait beaucoup. Donc quand Pierre a obéi à l'ordre du Seigneur, il a obéi alors qu'il était dans la tempête. Le vent soufflait déjà au premier pas qu'il a posé sur l'eau. Le vent soufflait déjà. Les vagues étaient déjà fortes. Mais quelle a été la différence? Tant qu'il ne s'occupait pas des circonstances et qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, croyant sa parole, marchant sur sa parole, il a dominé les circonstances. Au moment où il a commencé à considérer les circonstances, au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est l'erreur qui est faite souvent. Tu pries pour un boulot. Tu commences à dire, Seigneur, merci. Je crois que j'ai mon boulot. Et le temps commence à venir. Quelque chose qui essaiera de manger ta foi. Ça s'appelle le temps. Et le temps, il faut que tu saches t'en servir comme un bon ami plutôt que de voir que c'est un mauvais ennemi. Parce que quand tu apprends à persévérer au travers du temps, parce que la persévérance implique la notion du temps. Il faut que tu apprennes à utiliser le temps en ta faveur. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile au début dans la foi. Parce que ce qu'on veut, c'est prier. Dire merci Seigneur. On va faire comme Wafo. Amen, 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 amen. 5 fois, c'est ça?
3 fois.
Bon, tout ça, c'est bien. Mais il faut que ça soit accompagné avec ta foi. Et alors, quand des gens commencent à être enseignés sur la foi, quand les gens commencent à être enseignés sur la foi. Ah, j'ai compris. Le pasteur a enseigné que quand je sors de la prière, je ressors avec ma réponse. Alors ils prennent leur réponse et ils la serrent bien dans leurs bras. Seigneur, merci pour ma réponse. Et ils la serrent bien dans leurs bras, leur réponse. Et puis au bout d'un moment, il y a les circonstances qui sont là. Et ils laissent tomber leur réponse. Non, il faut que tu apprennes à persévérer, c'est-à-dire à continuer à faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Dans le temps. C'est ça qui va faire œuvrer ta foi. Quand tu sais que tu obéis à Dieu, le reste, ce n'est pas ton business.
Tu vas
dire, oui, mais je souffre. Oui, mais je n'ai pas encore vu ce que le Seigneur m'a promis. Oui, mais c'est en route. C'est en route. Apprends à utiliser le temps. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'à force d'utiliser le temps en ta faveur, tu es en train de forger en toi les systèmes de la foi. Quand tu apprends à être persévérant par rapport à quelque chose, que tu as passé des années à croire. Vous savez, je suis entré dans ce bâtiment la première fois de ma vie en 2003. J'ai rencontré le propriétaire de ce bâtiment qu'on a acheté ici en 2003 la première fois. Je lui ai dit, monsieur, on va vous acheter ce bâtiment. Je ne sais pas ce qu'on avait en banque à l'époque, mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. On était une toute petite église, mais je voyais ça. Et c'était difficile, parce que même pendant une période, ça m'était très difficile de voir ça. Pendant une période, j'avais pris une solution alternative. Un mauvais plan B. On apprend. Mais je peux vous dire une chose. Quand on marche dans la foi et qu'on voit les choses pour lesquelles on a cru pendant des années, ça met en vous un dépôt qui vous permettra de croire pour beaucoup plus. Et ça, au début, c'est ça qui est dur et difficile dans la foi. Un jour, il y avait un homme, je crois que c'était un homme de Dieu d'ailleurs, il avait un morceau de doigt en moins ici. Et il a proclamé la parole de Dieu sur son doigt, il lui a ordonné de pousser. Les premières fois où il a dit ça, le doigt n'a absolument pas du tout poussé. Mais il a persévéré dans la foi. Et quelques temps après, je ne sais plus si c'était quelques mois après, ses doigts étaient parfaitement normaux. Ça s'appelle la persévérance dans la foi. Moi, il y a longtemps, j'avais ce qu'on appelle des verrues ici. J'avais plein de verrues ici. Des verrues, c'est l'espèce de bouton, mais des trucs bizarres.
Alors, tout, non,
je ne sais pas comment vous appelez ça, qui ont dit des verrues. Je sais pas.
Comment on appelle ça?
On est obligé de brûler ça avec du soufre ou je ne sais pas quoi pour
enlever ça.
Mais j'ai dû proclamer la parole de Dieu pendant des mois aussi. Pour en être débarrassé. Il y a des choses où vous proclamez la parole de Dieu avec persévérance et vous avez toujours aussi mal ou vous avez toujours les mêmes symptômes. Mais ce n'est pas ça qui doit dominer. Ce qui doit dominer, c'est la parole de Dieu. Pierre, au début, il a dominé sur ses circonstances par la parole. Il y a des choses qui demanderont des années dans le travail de votre foi. Il y a des choses qui demanderont quelques jours. Il y a des choses qui seront même instantanées quasiment, comme le baptême de l'Esprit. Par exemple, dans les finances, souvent, ça demande un peu plus de temps de sortir de toute une mentalité de pauvreté. Pour arriver dans une mentalité d'abondance, des fois, ça demande des années. Parce qu'au début, notre dîme colle à notre poche. Et qu'on a du mal à... Seigneur, le panier est passé trop vite aujourd'hui. J'ai pas vu le service du protocole qui... Je devais prier profondément. Mais si tu ne donnes pas au Seigneur, tu bloques une clé de ta prospérité. Vous comprenez ce que je veux dire au travers de ça? Et parfois, tu es là et tu donnes avec difficulté. Tu donnes avec difficulté. Tu ne t'en sors même pas à la fin du mois et dire, donnez ma dîme au Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le problème, c'est que tu es en train de manger ta semence. Et alors tu vas donner au début et tu vas te retrouver avec plus de problèmes encore. Et tu vas dire, Dieu, j'ai essayé mais ça ne marche pas. Dieu ne te demande pas d'essayer sa parole. Dieu te demande de prendre sa parole. De l'appliquer telle qu'elle. Avec persévérance. Et c'est là où tu verras les résultats divins. Si tu veux voir des résultats divins, tu ne peux pas utiliser des méthodes humaines. Pierre a commencé à avoir peur, ses sentiments ont parlé. Sa tête, d'un seul coup, a perdu les pédales, entre guillemets, c'est-à-dire d'un seul coup. Son cœur avait la foi, mais d'un seul coup, sa tête n'était plus d'accord. Et quand sa tête n'a plus été d'accord, il a commencé à s'enfoncer. C'était pas trop tard. Mais il a fait une autre erreur qu'on fait souvent. Il s'écria avec la langue. Si tu veux voir le résultat divin, même quand rien n'a l'air de bouger, il faut que tu continues à parler le résultat. Rappelle-toi que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu prophétises pour demain. Si tu prophétises le résultat divin, c'est ce que tu verras avec tes yeux. Si tu parles les circonstances, c'est exactement ce que tu vivras demain. Et souvent, on se fait avoir avec ça. Quand tu ne persévères pas dans la foi, que tu dis l'opposé de ce que tu as commencé à proclamer. Tu fais comme Pierre. C'est parce que tu as peur d'abord des circonstances. La peur vient en nous quand nos raisonnements commencent à être déstabilisés. La peur vient à partir du moment où tu ne maîtrises plus une situation. Certains, si vous avez un problème de peur, c'est parce que vous avez du mal à maîtriser les situations. Vous commencez à perdre le contrôle d'une situation. Parce que tu perds le contrôle d'une situation, le sentiment de peur vient en toi.
C'est
humain. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas que tu fasses. C'est parler ta peur. Justement, c'est là où tu dois parler le contraire. Tu dois dire un. Ce n'est pas ces circonstances qui vont me dominer.
Mais
c'est la parole de Dieu. Et quand tu persévères dans la parole, tu continues à parler la parole en dépit des circonstances. En disant, même dans les moments les pires, tu diras, ce n'est pas ça qui va me dominer. Mais c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. C'est la parole que le Seigneur a écrite ici. Et là, tu te mets du côté des gagnants. Pierre a fait cette erreur. Seigneur, sauve-moi. Et là, d'un seul coup, il s'est complètement enfoncé. Verset suivant, s'il vous plaît. Le verset suivant va nous montrer quelque chose d'important. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi. Vous voyez, là, c'était un problème de foi. Vous voyez bien ici. Circonstances contre parole de Dieu. La leçon est là. Circonstances et parole de Dieu. Quand j'ai les yeux sur Jésus, sur sa parole, je domine mes circonstances. Rien ne peut me faire peur. Au moment où je commence à mettre mes yeux sur les circonstances, c'est là où je perds, je reviens dans le naturel. C'est là où je suis perdant.
Si j'ai les yeux sur les circonstances.
Ici, il lui dit, pourquoi as-tu douté? Donc, il lui dit, tu vois, tu n'as pas eu la foi pour continuer, pour aller jusqu'à moi. Là, on voit l'amour du Seigneur. Le Seigneur va le retirer d'eau. Sachez une chose. Dieu nous aime. Même quand on se plante, c'est-à-dire qu'on on passe de la foi au doute. Dieu est bon. Il te sortira toujours. Quand tu fais des erreurs, il te sort toujours. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance, rappelez-vous de ça. Abraham a gaffé, même très sérieusement, avec Agar.
Abraham,
il a fait Ismaël. Quand nous étudions la parole de Dieu, Abraham est resté 13 ans au moment où il a fait cet enfant avec Agar, alors qu'il avait les promesses de Dieu, et que Dieu lui avait dit, c'est avec Agar que tu auras une postérité. Il est resté 13 ans dans un désert spirituel. Mais Dieu lui a donné une deuxième chance. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Même de la troisième, même de la xème chance. Parce qu'il veut qu'on apprenne à marcher avec lui. Le problème, c'est que plus tu fais des erreurs, plus tu doutes au mauvais moment, moins tu vas aller vite. Moins tu verras Dieu. Et tu vas vieillir. Tu vas perdre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et tu vas voir les années passer sans voir la réalisation de tes promesses. Et c'est ce qui se passe chez la plupart des gens. Donc c'est pour ça qu'il faut rapidement qu'on saisisse des choses dans la foi. Quand il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Littéralement, dans le texte original du Nouveau Testament, ça veut dire, pourquoi tu as pensé qu'il y avait, eh ben en fait, un croisement, c'est-à-dire qu'il y avait deux chemins maintenant? Pourquoi t'as pensé? T'étais sur le bon chemin. Il
n'y
avait qu'un seul chemin que je voulais pour toi, c'était le chemin de la foi. Mais d'un seul coup, t'as pensé qu'il y avait un autre chemin, le chemin du naturel à nouveau.
Jésus
dit, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pensé à ça? Je voulais que tu sois sur le chemin de la foi. Bon, Jésus va le sortir de l'eau. Et puis, ceux qui étaient en train d'applaudir dans le bateau, Thomas a dû certainement dire,
ah,
les gars, je m'en doutais que ça allait finir comme ça. Là, vous serez vraiment mouillé quand vous doutez après. Il y aura des doigts qui vont se pointer vers vous. On te l'avait dit. On t'avait prévenu. Et là, c'est difficile. Parce que tu n'as plus grand chose à dire. Parce que tu n'as pas persévéré dans la foi. Imaginez-vous la suite de l'histoire qui aurait pu être complètement différente. Si Pierre était arrivé vers Jésus, je suis sûr que Jésus l'aurait pris par la main et ils auraient fait une belle petite balade, et les autres dans le bateau, ils auraient fait, on peut venir nous aussi, on peut venir.
Vous
voyez, ça aurait été glorieux. Pierre a loupé une très belle occasion de vivre quelque chose d'extraordinaire après. Ce texte est vraiment une leçon pour nous. Marche par conviction. Persévère jusqu'à ton devoir avec
toi.
Que ça prenne un mois, 3 secondes, 10 jours, 10 ans, persévère. Et tu verras avec tes yeux la rétribution de ta foi. Et les gens qui viendront te voir après diront vraiment, c'est extraordinaire. C'est ça la marche par la foi. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.